La pensée qui montait dans mon cœur, c'était de vous parler de la foi. Parce que c'est la chose primordiale d'avoir la foi. Et ce matin, en s'en venant, on entendait à la radio, en s'en venant sur la route, qui parlait de Dieu. Il parlait que chaque culture a leur Dieu. Pourquoi un l'appelle d'un nom, l'autre l'appelle d'un autre nom, l'autre l'appelle d'un autre nom? Mais pour les chrétiens, c'est pas seulement le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait connaître sa personne à travers la personne de Jésus. Et ce matin, on va aller dans Hébreux 1, verset 1, parce que, je vais regarder dans mes notes s'il y avait d'autres choses que je voulais dire. La chose que je veux rappeler, c'est prier pour votre pasteur. Parce que c'est lui qui a ce grand fardeau, cette vision pour l'Église. Et c'est avec lui que faut vous travailler pour que l'Église avance. Elle avance, l'Église. Vous êtes rendu dans un nouvel endroit. Vous avez fait des pas de foi. Vous avez grandi dans la foi. Vous avez avancé dans la foi. Et Dieu veut continuer à faire prospérer cette Église et faire grandir cette Église. Parce que vous êtes les instruments que Dieu se sert pour attirer les gens de l'extérieur par l'amour que vous avez du Seigneur Jésus, mais par la foi qui s'est bâtie en vous au cours des années. Et dans Hébreux, et le titre du message, c'est le guide du voyageur. Le guide du voyageur, c'est qu'on est des voyageurs sur cette terre et ça prend la foi pour avancer dans la vie spirituelle. C'est un peu comme avoir un véhicule qui a du gaz. Un véhicule, il a beau être flambant neuf s'il n'y a pas de gaz dedans, tu vas être assis en arrière d'un volant, puis tu vas faire semblant d'avancer. Mais dans la foi, on avance parce qu'il y a du gaz dans le réservoir. C'est la foi en Jésus qui nous fait avancer dans la connaissance de l'Évangile. Parce qu'il y a des gens qui ont une grande connaissance, mais ils n'ont pas la connaissance de Jésus-Christ. Ils croient en un Dieu, mais ne connaissent pas la personne de Jésus. Et Jésus a fait connaître le Père en venant sur cette terre. Et on va lire maintenant, parce que moi, je sais pas quand c'est affiché. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps pour lui laisser du temps pour qu'il puisse vous donner les versets qui doivent être affichés. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par la parole, par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Il a parlé par d'autres moyens, par d'autres gens dans le passé. Et il s'est fait connaître à nous, aujourd'hui, par la personne de Jésus-Christ, par l'amour que Jésus est venu manifester pour nous. Et cet amour-là, Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler. Mais nous, on n'a pas seulement le privilège d'avoir entendu, on a le privilège de pouvoir lire la parole, d'avoir des bases solides qui sont là pour s'appuyer, qui est la parole de Dieu, qui fait en sorte que on entend des choses qui se disent, mais on peut vérifier ce qui est dit. Et là, on se base notre foi sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce monde, mais qui n'est pas de la parole de Dieu. Qui amène en dehors des voies de Dieu. Qui amène ailleurs des voies de Dieu. Mais lorsqu'on lit la parole, c'est pourquoi qu'on a un besoin en tant que chrétien de se nourrir régulièrement de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi qu'il dit, autrefois, Dieu a parlé de telle manière par les prophètes. C'était bon dans ce temps-là. On a encore les prophètes, on a encore les livres dans l'Ancien Testament, on a encore ces écrits-là, les prophéties qui avaient annoncé Jésus, qui disaient qu'il viendrait, qu'il faisait et qu'il accomplirait des choses. Mais là, Jésus est venu. Et il agit dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a la foi en lui. Parce qu'on croit en lui. Parce qu'on voit des gens s'ajouter à l'Église. C'est ça qui est merveilleux. Et j'entendais aux nouvelles qu'à Sainte-Anne, ils vont avoir une nouvelle piscine. Peut-être qu'ils vont avoir plus de baptêmes. Ils ont décidé de bâtir une plus grosse piscine ou une nouvelle piscine pour avoir des baptêmes. La semaine, le 29 juillet, à l'église, au centre chrétien, il y a eu 5 baptêmes. Et ça, c'est une preuve qu'il y a des gens qui s'engagent à vivre la foi de Dieu en se faisant baptiser. Et s'il y a des gens ici qui ne sont pas encore baptisés, qui croient, faites-vous baptiser. Parce que c'est fait partie du plan de Dieu de se faire baptiser. Vous allez rentrer dans l'eau, puis vous allez sortir tremble. Mais c'est plus que ça. C'est une identification à la personne de Jésus, parce que Jésus lui-même s'est fait baptiser, et nous, on s'est fait baptiser. Moi, je me suis fait baptiser, mon épouse s'est fait baptiser, parce que c'est un engagement envers le Seigneur Jésus, qu'on décide et on fait un acte public en plongeant dans l'eau, en se faisant plonger dans l'eau et en sortant en tremble, mais en étant une nouvelle créature, parce que on a accepté Jésus comme sauveur personnel. Et le moment que je me suis fait baptiser, que mon épouse, on n'était pas mariés à ce moment-là, on se connaissait pas, on se fréquentait pas, on s'est fait baptiser la même journée dans le même lac où c'était de l'eau assez frette. Et on a été saisis. Et quand on regardait les gens qui se faisaient baptiser, ils ont charrié des chaudières d'eau pour réchauffer l'eau avant, parce que là, ça s'est fait dans l'église. Et pourquoi ils ont fait ça dans l'église, qu'il y avait un baptistère? C'est parce que habituellement les gens sortent et on va aller baptiser une telle personne dans la piscine du troisième voisin. Puis là, les gens, il y en a une partie qui s'en vont, puis il y en a une partie qui reste. Mais le pasteur s'est dit, Jean-Marie, et il s'est dit, on va le faire dans l'église, parce que lorsque les gens sont tous là, il y a des gens qui sont pas baptisés. Ça encourage ces gens-là à s'engager dans la foi et à accepter de se faire baptiser. Ils ont accepté Jésus, mais c'est un acte de foi de se faire baptiser, d'accepter de rentrer dans les eaux du baptême, de se faire saisir. Ça fait, des fois, l'eau est frette, on saisit, mais spirituellement, on est saisi de la présence de Dieu, saisi de vouloir faire la volonté de Dieu. Et Dieu parlait autrefois par ces prophètes-là. Mais aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Nous, on prêche la parole. Paul prêche la parole. Luc, Linda, vos pasteurs prêchent la parole. Mais ils parlent toujours de Jésus. C'est pour ça que notre foi est précise. Et pas seulement en croyant un Dieu. Parce qu'on parle souvent, les gens croient à Dieu. Ils croient à un être suprême. Ils l'appellent de toutes sortes de noms. Mais pour nous, c'est pas seulement un Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ, celui qui est parti du ciel, qui est venu sur la terre, qui a accompli sa mission, qui a fait des miracles, qui a multiplié les pains, qui a guéri les malades, qui a chassé les démons, qui a œuvré et qui a été crucifié. Il n'a pas resté au tombeau. Il est mort, il a été au tombeau, mais 3 jours après, il est ressorti de là, il s'est fait connaître, il s'est fait voir à ses disciples, il ne reconnaissait pas toujours. Parce qu'il n'y avait plus la même forme qu'il y avait auparavant. Il n'y avait plus la même façon qu'il était. Parce que les disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec lui un certain temps pour se rendre à Emmaüs. Puis, il parlait avec, puis il y avait un feu qui brûlait intérieurement. Puis, quand il a rompu le pain, ils ont reconnu que c'était lui, il est parti. Puis là, les autres, ils n'étaient pas assez fatigués. Ils ont reparti à la course, puis ils ont allé dire ça aux autres. Parce que là, ils étaient tout excités d'avoir vécu quelque chose. Et dans notre foi, Dieu veut que l'on vive des choses qui vont nous exciter, parce que la foi doit nous exciter. Et quelqu'un qui dit qu'il a la foi, qui ne fait rien, c'est pas vraiment de la foi. Il y a une excitation, il y a des gestes qui s'accomplissent. La preuve, Jésus a accompli en venant sur cette terre. Il a fait quelque chose, il aurait pu rester dans le ciel, c'est tranquille là, c'est merveilleux, j'ai des anges autour de moi, je me fais pas persécuter, je me ferai pas crucifier. Mais il a décidé de venir, il a pris la décision. Et la foi engage des décisions, des engagements, des choses de faire, des choses, prendre des gestes et des actions. Et on va le voir un peu plus loin. Jésus a fait cette chose-là. Et dans notre monde, il y a des gens qui ils vont comme exalter les anges. Mais Jésus est au-dessus des anges. Parce que au verset 4, on voit là que dans les gens, il y a toutes sortes de mentalités, de choses qui sont tordues. Puis la parole de Dieu nous ramène dans le droit chemin, parce que les gens croient en Dieu, mais ils sont pas capables de définir Jésus. Ils croient en Dieu, mais ça ne fait pas des croyants selon la parole de Dieu. Ça fait des gens qui croient en un Dieu. Mais nous, on a un Dieu qui est précis, qui est Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui est un Dieu puissant. Il s'est révélé dans la personne de Jésus. On sait qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Jésus est venu pour se faire connaître. Et au verset 4, dans le même chapitre, il dit, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Les anges sont des créatures célestes. Et bien des fois, les gens vont dire, « Ah, j'aimerais ça qu'un ange m'apparaisse. » Ou que ils voient dans l'Ancien Testament des choses. Et il y a des gens qui ont des anges. Ils voient des petites statuettes d'anges. Mais notre foi n'est pas dans les anges. Notre foi est dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans sa parole, dit qu'on a des anges qui nous sont assignés, qui sont avec nous pour nous protéger, pour ceux qui doivent hériter du salut. On a des anges qui sont là. Mais on est des gens qui adorent Jésus parce qu'il est supérieur aux anges, supérieur à toutes ces créatures célestes-là, ou astres, parce qu'il y en a qui vont être des adorateurs du soleil. C'est un astre, mais nous adorons celui qui a créé l'univers, le créateur de l'univers, celui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Et les gens sont portés vers la création pour adorer la création de Dieu. Nous, on est portés vers le Créateur. Ça, c'est l'état suprême. On peut pas aller plus haut pour adorer. C'est à Jésus lui-même, au Père céleste qu'on va et qu'on adore. Et c'est pourquoi que dans l'Épître aux Hébreux, c'est un guide du voyageur. Parce que lorsqu'on rencontre des gens qui vont dire qu'ils croient en Dieu, mais on peut leur poser, croire en Dieu pour toi, c'est quoi? Quel est le sens de la croyance que tu as? Quelle est la définition de ta croyance? En quoi crois-tu vraiment? Crois-tu dans la parole de Dieu? Les gens, bien des fois, disent, non, moi, la Bible, je comprends pas ça, puis je crois pas là-dedans. Ben, tu peux pas baser ta foi si t'as pas la parole de Dieu pour te baser. Parce que c'est une nécessité. C'est une obligation de s'appuyer sur cette parole-là qui est une parole éternelle, qui est une parole vivante, une parole qui est révélée. Je parlais avec quelqu'un cette semaine concernant la foi d'Abraham. Abraham avait la foi, et pas pour rien qu'il est appelé le père de la foi. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien qui pouvait s'appuyer, et Dieu lui a donné une parole qu'il serait le père d'une multitude, qu'il y aurait une descendance, qu'il y aurait des choses qui s'accompliraient pour lui. Puis, la parole était révélé un rima de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont pas familiers, c'est une révélation, une parole révélée qui est venue dans son cœur, qu'il y aurait une descendance. Puis il était rendu âgé. Puis à un moment donné, dans le cours du temps, les choses s'accomplissaient pas. Sarah a dit, on n'a pas d'enfant, puis je vieillis, prends ma servante, puis on va avoir un enfant. Dieu était pas dans la chose. Dieu n'était pas là-dedans. Il a accompli cela. Il a eu un fils et Dieu lui a dit, c'est pas lui qui va hériter. C'est pas lui l'héritier. Et là, la parole de Dieu lui a été révélée. Ça a été une grande période que Dieu lui a pas parlé. Mais dans sa foi, il a attendu. Si les choses avaient arrivé normalement, dans la foi, puis qu'elle aurait eu 40 ans ou 25, 30 ans pour avoir un enfant, on aurait dit c'est normal. Tout le monde est capable d'avoir des enfants à cet âge-là. Si Abraham aurait eu une dent dans la trentaine, quarantaine, puis qu'il aurait eu un enfant. Mais Dieu a permis que la chose soit rendue impossible. Et Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Faut croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Pas se limiter à croire que Dieu est limité à ce que on pense, nous. Puis que Dieu fait toujours les mêmes choses, toujours pareilles. Dieu ne répète jamais les choses pareilles. Pensez que Dieu veut faire des choses différentes. Il n'y a pas deux animaux qui sont pareils. Il n'y a pas deux humains qui sont pareils. Il n'y a rien qui est pareil. Même ils disent, les scientifiques, je ne l'ai pas testé, parce qu'on a de grandes quantités de neige au Québec. Ils disent qu'il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Dieu est un Dieu de diversité. Il ne faut pas penser que Dieu est limité dans mes pensées quand je prie. On imagine des fois des scénarios, probablement qu'Abraham, quand il a reçu la parole, il s'est imaginé qu'il y aurait une postérité, puis là, la semaine d'après, sa femme viendra enceinte, puis là, il y aurait une descendance. Mais ça ne s'est pas passé comme il a pensé. Puis la foi, ça ne se passe jamais comme on le pense. Il a été 13 ans environ, là, qu'il n'y avait pas d'enfant. Sarah a donné sa servante pour avoir un enfant. Elle a eu un enfant. Et c'était pas le plan de Dieu. C'était pas ce que Dieu avait prévu. Et Dieu a parlé à nouveau, il dit, c'est pas lui qui va hériter, ça va être quelqu'un qui va sortir de toi, qui va hériter, qui va être l'héritier. Ça a pris encore une dizaine, une douzaine d'années. Je suis pas précis dans les années, mais ça a encore pris du temps. Il dit, Dieu a envoyé encore quelqu'un, des gens, il a dit, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Hey! Sarah, elle a ri. Elle était cachée dans sa tente. Elle a ri. Je comprenais, mais elle était rendue à 89 ans environ. Une femme de 89 ans qui va avoir un enfant. Ça va être une risée. Mais Dieu a permis que Sarah ait un enfant. C'est impossible. Dieu a permis que ce soit impossible pour qu'ils disent c'est parce qu'on est en capacité d'avoir des enfants. Et la foi. Mais des fois, les choses semblent impossibles. Mais lorsqu'une parole qui est venue de Dieu et que Dieu a parlé, ça va sembler impossible, puis Dieu va accomplir. Parce que Dieu a la puissance de faire les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Dieu accomplit des merveilles. Et avec votre Église, c'est la même chose. Dieu a le pouvoir d'attirer d'autres gens, de sauver d'autres personnes, d'amener d'autres gens à se greffer à cette Église, parce que Dieu veut que l'Église grandisse. Probablement que nos frères haïtiens n'ont pas pensé qu'ils viendraient au Québec et qu'ils seraient en Abitibi, qu'ils soient ici. Peut-être que vous autres même, vous ne l'avez pas imaginé, mais Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous. Dieu a un plan pour chacune de vos vies. Dieu veut vous amener plus loin encore, parce que Jésus est supérieur aux anges. Et il va faire des choses supérieures à nos pensées, supérieures à tout ce qu'on imagine, supérieures à tout ce qu'on prévoit. Et même, il y a des choses qu'on est étonné. Et gloire à Dieu lorsqu'on est étonné de voir ce que Dieu accomplit. Parce que Dieu veut nous étonner. Il ne veut pas juste dire qu'on marche avec lui tout en s'endormant tranquillement. Il veut qu'on soit éveillé. Il veut qu'on grandisse dans notre foi. Il veut nous faire développer ces choses-là. Et Dieu a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Vous êtes les héritiers de Dieu, mais on n'a pas encore hérité. On va hériter, mais qu'on s'est rendu dans sa présence. On a un héritage présentement, on a le salut. Mais c'est toujours en espérance. Et ça dépend de notre foi si on persévère jusqu'à la fin. Parce que c'est une très grande importance de persévérer jusqu'à la fin. Par lui, il a créé l'univers. Par Jésus, il a créé l'univers. Par Jésus, il vous a sauvé. C'est une chose d'avoir créé l'univers, mais c'est une chose d'avoir sauvé chacun d'entre vous et que vous soyez ses enfants et que votre nom est écrit dans le livre de vie. Parce que c'est une chose très importante. Je vais avoir le nom dans votre ville, ici à Sainte-Terre. Mais c'est encore plus important, votre nom est écrit dans le livre de vie. Le reflet, le Fils, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas connaître le Père, vraiment, à moins d'avoir le reflet de la gloire de Dieu que le Fils vienne révéler. On comprend que la gloire a été révélée parce que les gens ne reconnaissaient pas Jésus, mais il n'y avait pas le choix de croire qu'il faisait des miracles. Il n'y avait pas le choix de croire qu'il faisait de grandes choses. L'empreinte de la personne de Dieu. On connaît plus Dieu aujourd'hui que tous ceux de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation du Nouveau Testament. Jésus a marché avec les disciples. Jésus a donné des révélations dans l'Apocalypse. Jean l'avait côtoyé lorsqu'il était sur la terre, mais lorsqu'il s'est révélé à Jean dans l'Apocalypse, c'était dans une dimension divine. Là, il n'y avait plus le côté terrestre. Comme Jésus était, il y avait de la fatigue, il y avait des choses qui se passaient, il y avait faim. Il s'endormait parfois dans le bateau lorsqu'il se déplaçait avec ses disciples. Les disciples, à un moment donné, la tempête était là. Et parfois, vous vivez vous aussi des tempêtes. C'est pas le même genre de tempête. Vous n'êtes pas assis dans un bateau en train de vous faire balloter par des vagues et de vivre toutes sortes de choses. Mais vous avez des tempêtes dans vos vies et Jésus est dans le bateau avec vous. Jésus est dans vos vies. Et il a le pouvoir de calmer la tempête. Il a le pouvoir de changer les choses qui sont contre vous en votre faveur et à sa gloire à lui. C'est pourquoi Jésus est supérieur. Jésus est supérieur à vos temps de tempête, à vos épreuves, à vos situations. Mais pourquoi Dieu les laisse là? Parce qu'il vous fait grandir à travers. Il vous apprend à grandir à travers vos situations d'épreuves, vos situations que vous vivez à tous les jours. Et ça vous permet de développer votre foi de plus en plus. Parce que c'est important. C'est comme avoir du gaz dans votre réservoir d'automobile. Ça vous fait avancer dans la vie. Et le diable attaque votre foi par les tempêtes, par des situations pour essayer de la détruire. Mais Dieu a le pouvoir de la faire grandir, cette foi-là. Parce que Dieu est Dieu. Et vous, là, vous pensez que vous allez être détruit par une des situations et vous vous apercevez après un certain temps que vous avez traversé la situation et que vous avez grandi dans cette situation-là. Hein? Personne ne veut avoir un enfant qui ne grandit pas. Hein? On a un enfant puis il reste à un an toute sa vie. Ça serait impossible, mais spirituellement, c'est la même chose. Dieu nous fait grandir progressivement à travers les situations qu'on traverse. Et on a de l'expérience après des années, je ne sais pas combien d'années et le plus vieux chrétien a ici, mais le plus vieux des chrétiens ou le plus jeune s'en va toujours vers une croissance de la connaissance de Dieu et de la vie avec Dieu qui fait la différence. Supériorité de Jésus, la supériorité que Jésus a, c'est de se révéler à vous, de vous faire grandir, et c'est là que vos yeux doivent être fixés. On va aller dans Hébreux 2, 1 à 4. C'est des avertissements qui sont donnés aux gens à ce moment-là dans Hébreux parce que il y a toujours des dangers dans la vie. Je prenais aux nouvelles le 5 juin 2018 à Quévillon, il y a eu deux noyades. Des nouvelles. Mais spirituellement, on peut se noyer. On peut faire naufrage spirituellement. Et c'est pourquoi que c'est une nécessité de venir à l'Église. C'est une nécessité d'être nourri de la parole de Dieu. Une nécessité de s'engager avec Dieu. Une nécessité de croire la parole de Dieu, de ne pas douter de la parole de Dieu, d'avoir cette ancre dans nos vies, d'être ancré sur la parole de Dieu. Et dans Hébreux 2, verset 1, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont été emportés loin de la foi. Parce que leur foi n'était pas basée sur la parole et sur Jésus lui-même. Puis le diable a réussi à entraîner ces gens-là à s'éloigner. Vous avez peut-être des enfants qui ont entendu jeunes la parole de Dieu, qui ont connu le Seigneur jeune, puis qu'aujourd'hui ils se sont éloignés. Vous êtes les gens qui pouvez et qui faites la différence en priant pour eux. Parce que vos prières sont efficaces aux yeux de Dieu. Et parfois, ça semble impossible. Un peu comme Jacob. Jacob, il avait un nom, menteur, surplanteur. Il avait fait quelque chose. Mais un moment donné, Dieu a changé son nom pour Israël. Et il y a des gens qui ont connu le Seigneur, qui se sont détournés. Il y a quelque chose qui est arrivé dans leur vie, qui se sont détournés. Et c'est là que ces gens-là font un naufrage. Et c'est pourquoi qu'il nous donne cet avertissement-là de faire attention, de ne pas se détourner de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu, d'avoir ces doutes-là. Parce que le diable vient pour créer des doutes sur la parole de Dieu ou de dire comme les gens du monde, « Bon, c'est juste des hommes qui ont écrit ça, ce livre-là. » Mais des hommes inspirés de l'Esprit de Dieu. Parce que ils étaient inspirés de l'Esprit de Dieu, ils l'ont écrit. Et dans tous les passages, ils s'accordent ensemble pour dire la même chose dans le même sens que la vérité est de la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a des contradictions. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour saisir et comprendre les choses. Et parfois, Dieu ne permet pas qu'on comprenne une certaine chose pour que l'on puisse marcher par la foi et dire, « Seigneur, quand tu voudras me le révéler, tu me le révéleras. » Et ça, c'est une attitude de foi. Parce que on ne comprend pas une chose, il faut faire confiance à Dieu et dire, « Seigneur, quand je serai prêt, tu me le révéleras. » Et là, à un moment donné, il y a des années qui se passent, il y a des années qui déroulent, puis à un moment donné, il y a un déclic dans notre tête, dans notre cœur, par l'Esprit de Dieu, qui fait que, ça fait des années que j'essayais de saisir c'est quoi, et l'Esprit de Dieu a révélé cette chose-là. Ça, c'est un rima, une révélation de la part de Dieu qui vient dans le cœur, qui fait en sorte que la personne comprend. Combien de gens ont entendu parler du salut? Des années, des mois et des années qui ont, les gens leur parlaient, leur témoignaient d'Évangile. À un moment donné, la révélation de Dieu s'est faite et le salut est entré dans le cœur. Ils ont dit, comment ça, je peux le dire pour moi-même, comment ça, j'ai pas compris ça avant? C'est parce que il n'y avait pas la foi. J'avais pas la foi pour le saisir. Et l'Esprit de Dieu a répondu au moment où ce que mon cœur s'est ouvert. Et je continue avec les passages, je me suis arrêté un petit peu. Il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si d'autres, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu fait une œuvre. Et les gens qui rendent témoignage, vous rendez témoignage de la vérité de la parole de Dieu, vous êtes des témoignages vivants sur deux pattes. Parce que comment est-ce que les gens peuvent voir Dieu? C'est à travers vous, votre façon de vivre, votre façon de parler, votre façon de réagir aux situations, votre façon d'être qui fait que vous êtes différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu puis qu'il blasphème, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Il manque, il n'y a pas d'amour pour Dieu vraiment. Parce que son langage doit être transformé. Sa vie doit être transformée. Et bien des fois, les gens pensent que c'est l'extérieur qui doit être transformé. Ils font des efforts. C'est le cœur. Dieu commence par transformer le cœur. Donner une image. C'est un peu comme une bouteille avec de l'eau sale. Tu introduis un tuyau, puis tu ouvres la champlure, puis l'eau propre commence à rentrer dans cette bouteille-là, puis la saleté sort, puis à un moment donné, l'eau vient très, très, très claire dans cette bouteille-là. Bien, Dieu fait la même chose avec nos vies. Il nous a donné son Saint-Esprit qui nous a amené la parole, qui déverse dans nos cœurs, puis les saletés du péché sont mises à l'extérieur, sont jetées dehors, sont jetées à l'extérieur de notre vie au fur et à mesure, et notre vie devient de plus en plus limpide, claire, avec la parole de Dieu, parce qu'on la vit de mieux en mieux. Parce que c'est ça l'œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est de transformer à partir du cœur, et l'extérieur s'apparaît. Les gens le voient. Les gens réalisent, tu n'es plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment ça que tu as changé comme ça? C'est parce que Jésus a changé ma vie. C'est parce que Jésus change vos vies. C'est parce que Jésus fait une œuvre dans vos vies. C'est pourquoi Jésus est suprême et supérieur à tout ce que c'est qu'il peut y avoir. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui vont voir des psychologues, vont voir des psychiatres, ils se font prescrire des médicaments ou ils vont raconter leur vie pour changer. Oui, il y a des changements extérieurs, mais ça donne pas le salut. Ça donne pas le salut. Ça donne qu'un certain changement extérieur. Mais dans le cœur, il n'y a pas de changement. C'est là que Dieu veut opérer. C'est là que Dieu opère à travers sa parole. C'est là que Dieu agit dans le cœur. Et ça, c'est parce que la foi est agissante. Et il y a des gens, et vous êtes les gens, et nous sommes les gens qui devons prier pour ces gens-là. Les gens de la ville. On est un petit nombre. Mais Dieu a un grand nombre encore. Comme il a dit à Paul quand il était à Corinthe, il dit, reste là, il était 3 ans, environ 3 ans et demi, à enseigner à Corinthe. Puis là, il y avait des persécutions. Avant qu'il y ait 3 ans et demi, Dieu lui a dit qu'il y avait un grand peuple dans cette ville-là. Paul a été là longtemps, un certain temps, puis a enseigné la parole de Dieu. Il y a des gens qui se sont ajoutés. L'Église de Dieu, des Corinthiens, n'était pas sans trouble. On voit qu'ils étaient charnels. On voit qu'il y avait des gros problèmes charnels. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il les a amenés vers une transformation. Et Paul prêchait la parole et il a écrit, on sait, la première lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre, parce qu'ils voyaient des choses qui devaient être changées dans leur vie. Pas parce que Dieu les aimait pas, parce que Dieu les aimait qu'il voulait qu'ils changent des choses dans leur vie. Et Dieu, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est parce qu'il nous aime qu'il veut nous voir changer des choses et de vraiment mettre Jésus en priorité dans nos vies. L'état suprême que Jésus a dans nos vies. Tu sais, si on aime le monde, je ne parle pas d'aimer les personnes, le monde, le péché, les choses qui sont du monde. La parole a dit de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je ne parle pas des personnes là quand il dit ça. Le péché qui est dans le monde. Les choses mauvaises du monde. Les choses qui sont du péché, que la parole de Dieu déclare péché. Ça, on ne doit pas les aimer. Mais la personne, Dieu veut qu'on l'aime pour qu'elle soit sauvée. Pour qu'elle soit délivrée. Et je reviens au 5 juin 2018, quand il y a eu ces deux personnes qui se sont noyées. Pensez-vous qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'ils portent une veste de sauvetage? Ils savaient qu'il y avait un danger d'aller sur l'eau. Il y a toutes sortes de dangers qui nous guettent. Ces gens-là qui étaient à la pêche et qui vivaient se sont noyés. Mais qu'est-ce qui est amené? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils se noient? Il y a des circonstances qui étaient là. Et spirituellement, il y a des circonstances qui sont là, qui peuvent nous guetter pour nous amener et nous éloigner de la volonté de Dieu ou du plan de Dieu. Mais c'est notre foi qui va faire la différence. Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est un combat de garder la foi. C'est un combat de combattre les pensées qui viennent, qui ne sont pas de Dieu. C'est de rejeter les pensées qui ne sont pas de Dieu et de garder les pensées qui sont de Dieu et de lire la parole de Dieu et dire, moi, je crois ce que la parole de Dieu dit, même si je la comprends pas toute dans toute sa profondeur, parce que ça va être impossible de toute la comprendre dans sa profondeur, parce que c'est une parole éternelle. Ça fait des milliers d'années que cette parole-là est prêchée et personne ne va l'épuiser. C'est comme avoir une source qui jaillit, puis qui jaillit, qui jaillit, puis qui ne pourra jamais être tari. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle ne pourra jamais être tarie. Même dans l'Apocalypse, on voit qu'un fleuve d'eau vive, un fleuve d'eau vive qui coule du trône de Dieu se répand. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle n'a pas de limite. Mais nous, malheureusement, en tant qu'humains, on la limite. On la neutralise par notre manque de foi. On la neutralise par notre manque de compréhension. Ça, c'est des avertissements qui viennent de la parole de Dieu. Et on va aller à un autre point. Jésus supérieur à Moïse. Parce que là, il parlait aux Hébreux. Eux autres, ils considéraient Moïse comme étant l'homme de Dieu suprême, qui avait fait de grandes choses, qui avait sorti le peuple d'Égypte, qui les avait amenés dans la terre promise. Il n'a pas pu rentrer, lui, mais là, les gens ont rentré. Il y a eu une génération qui est morte dans le désert. Mais ils voyaient Moïse comme étant un grand homme. Mais Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Moïse. Et on va aller dans Hébreux 3, 1. Parce que la supériorité, Paul était, on présume, on ne sait pas si qui vraiment qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on peut penser que c'est Apollos, on peut penser que c'est Paul, on peut penser que c'est un autre. Mais il parlait aux Hébreux parce que les Hébreux avaient de la difficulté à croire. Parce qu'ils voyaient Moïse comme étant un être, un grand prophète, quelqu'un qui était grand, et c'est vrai qu'il était grand. Et Jésus est plus grand que ça encore. Dans Hébreux 3, il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, à l'appel du ciel, à l'appel de Dieu. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Dieu a établi Jésus sur sa maison. Moïse a été établi pour un temps sur la maison de Dieu pour accomplir une mission, pour faire une œuvre, pour sortir le peuple d'Égypte. Dieu nous a sortis d'Égypte, l'Égypte spirituelle. On était en Égypte tous, dans la condition perdition. Et il nous a fait rentrer dans la terre promise, le salut de Dieu. On est, pour ceux qui sont sauvés, on est dans cette terre promise. Mais on n'a pas conquéri tout le territoire encore. Mais Dieu nous amène à conquérir le territoire, de grandir, de continuer à grandir dans la foi, à se développer et à acquérir ces choses-là. Comme Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Il était fidèle. Dieu vous appelle à être fidèle à lui, fidèle à Dieu. Dans les choses que vous savez que vous avez besoin de changer, il faut que vous cherchiez la face de Dieu, que vous priez pour que les choses soient changées dans vos vies. Et lorsqu'on n'est pas capable, on s'en remet à celui qui est capable. Et pourquoi que Dieu, des fois, il nous laisse avec des certains problèmes? Parce qu'il veut qu'on persévère. Il veut qu'on grandisse dans notre foi, parce que c'est comme des muscles spirituels. Je ne sais pas s'il y en a qui font des haltères ici, ou qui ont l'intention d'en faire. Le muscle doit se développer avec la force d'augmenter la capacité à lever les poids. Je connais quelqu'un qui a eu un accident en jouant au hockey, puis il s'est fait couper le nerf de la grosse moselle. Puis ils ont rattaché, parce qu'il s'est réveillé le matin, puis il y avait la moselle rendue haute, puis il n'avait plus capable de se bouger le bras. Puis il s'est fait remettre ça à sa place, il a fait une opération. Puis là, il était un bout avec un plâtre, il ne pouvait pas bouger. Puis là, après ça, ils ont enlevé le plâtre, puis il est allé voir le médecin. Puis le médecin, il a dit, là, il faut que tu fasses des exercices, tu vas commencer par une livre à lever. Ben, tu es en train de rire de moi. Une livre. Il n'a même pas été capable de la lever. Parce que ça faisait des mois que son muscle ne travaillait pas. Il a commencé par une livre. Là, son bras commençait à travailler. Ils ont rajouté 2 livres. Son bras commençait à reprendre la capacité. 3 livres, 5 livres, 10 livres, jusqu'à ce qu'il soit capable. Et spirituellement, c'est un peu le même principe. Notre foi doit être exercée à agir pour Dieu. Notre foi doit être exercée pour accomplir des choses pour Dieu et à faire les choses que Dieu veut. Parce que Jésus a été établi. Jésus a été établi sur la maison de Dieu. Mais les gens n'ont pas tous accepté Jésus comme étant le Messie. Les gens n'accepteront pas non plus que vous soyez chrétien puis qu'ils vont vous voir puis qu'ils vont dire, « Ben, t'es une bonne personne. » Ils vont dire, hein, « Tu te souviens-tu qu'est-ce qu'il était avant? » On a un exemple dans la parole, Rahab. L'acte de foi qu'elle a fait la différence dans sa vie. Elle a juste étendu un morceau de linge cramoisi sur sa fenêtre. Un acte de foi. Et elle a manifesté sa foi par une action. La foi se manifeste par des actions. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on n'a pas des actions qui vont avec. Les gens vont dire, j'ai la foi, mais la foi dans quoi? La foi, on doit la placer sur la parole de Dieu et avancer avec ça. Et lorsque vous témoignez la parole de Dieu, ça déclare votre foi. Ça déclare une action ou un geste que vous faites qui prouve que vous croyez en Dieu, que vous êtes des croyants. Et bien des fois, vous n'avez même pas besoin de dire à quelqu'un, moi je suis un chrétien, je crois en Dieu. Il vous regarde aller. Il dit, il n'est pas pareil que les autres. Il n'est pas comme les autres. Il ne compte pas de menterie. Il n'est pas croche. Il ne courroie pas. Il ne va pas dans des places où ce que les gens vont d'habitude, le dimanche, le samedi soir, le vendredi. Il est fidèle à sa femme. Il est un bon mari ou une bonne femme, il vit différemment, il y a quelque chose que j'ai pas, que lui a. Puis il commence à se poser des questions. Il vous les pose pas, ben, des fois, mais il vous observe. Il cherche à savoir qu'est-ce que vous avez. Il se pose des questions. Puis il se demande. Puis là, il y a quelqu'un, il dit, tu savais-tu qu'un tel, il va à l'église là-bas? Mais il semblait qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il était différent. C'est la différence que Dieu fait dans vos vies. La différence. Puis on a une confiance en Dieu. Au verset 6, dans le même chapitre, Hébreux 3, verset 6, il dit, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » On a une confiance en Dieu, parce qu'on connaît Dieu. On connaît Dieu parce qu'on connaît sa parole. On sait que lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit quelque chose. Ça a pris du temps avant qu'il le fasse, mais il l'a fait. Dieu est un Dieu de parole. Un Dieu qui, lorsqu'il nous dit quelque chose, lorsqu'on saisit quelque chose de sa parole, on a une foi en lui. Et l'espérance de la vie éternelle et la confiance que l'on a en Dieu repose sur ce que l'on a, notre foi que l'on a en Dieu. Parce que avant d'être sauvé, je me demandais où est-ce que je m'en irais pour l'éternité. Mais depuis que Dieu s'est révélé, c'est une confiance, c'est une assurance, c'est une chose, une certitude dans mon cœur. Comme dans chacun d'entre vous, si je vous demanderais, comment es-tu sauvé? Comment as-tu connu Jésus? Comment l'as-tu accepté? Comment as-tu donné ta vie au Seigneur? Chacun d'entre vous, vous pourriez me raconter comment est-ce que Dieu a travaillé pour vous amener où vous êtes aujourd'hui parce que vous l'avez accepté. Parce que chacun d'entre vous, vous avez une histoire. Une histoire avec Dieu. Et ça fait une différence. L'histoire avec Dieu. Parce que Jésus existait avant l'histoire. Avant que le monde existe, Jésus existait. Et Jésus existe dans l'histoire. Parce que l'histoire, les gens la répètent. L'histoire, Jésus est venu. Il a marqué le monde. Il a été considéré dans le monde. Il y en a qui l'ont rejeté, il y en a qui l'ont accepté. Mais il est dans l'histoire. Et au-delà de l'histoire, mais que la terre, dans la forme actuelle, soit finie, Jésus va exister encore dans l'histoire. Et Jésus a une histoire avec chacun d'entre vous. Parce que c'est merveilleux. On peut juste l'histoire des disciples. On peut lire la Bible, puis Jésus avait des histoires qui ont été faites, et on lit les récits de la Bible, puis il y a eu une histoire avec Jean, il y a eu une histoire avec Pierre, il y a eu une histoire avec Jacques. Mais chacun d'entre vous, chacun de votre nom, à vous qui êtes sauvés, Jésus a une histoire qui est écrite avec vous. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est pas un Dieu impersonnel, c'est un Dieu personnel que l'on connaît à travers Jésus. C'est pourquoi il est supérieur. Supérieur à une religion. Supérieur à une organisation, supérieur à tout ce qui peut se nommer sur cette terre, Jésus est supérieur. Et c'est vers lui qu'on s'en va, c'est avec lui qu'on va être pour l'éternité. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il l'a dit, il est dans Isaïe, merveilleux. Jésus est merveilleux. Parce que c'est merveilleux de le connaître. C'est merveilleux ce qu'il veut faire avec nous. C'est merveilleux lorsqu'on va être dans sa présence. Mais c'est merveilleux présentement aujourd'hui. Parce que bien, des fois, on parle du passé, Jésus m'a sauvé, ou on va être avec lui pour l'éternité. Mais considérez qu'aujourd'hui, c'est le jour important. Parce que Dieu agit avec vous. Il fait des choses avec vous. Il œuvre à travers vous. Il œuvre à travers vous dans le monde, dans la société de cette terre. Parce que vous faites la différence. C'est pas un Jésus du passé, puis un Jésus de l'avenir. Jésus au présent. C'est le présent. Qu'est-ce que vous faites avec lui? Comment vivez-vous votre foi avec lui? Comment vous agissez et témoignez de ce qu'il accomplit dans vos vies? On va aller dans Hébreux 11, 1. C'est un passage que tout le monde connaît, un peu comme Jean 3, 16. Mais il n'est pas épuisé. Il est toujours épuisé dans ce passage-là parce que c'est une source abondante qui nous donne. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous votre foi? Non, mais vous voyez les actions qui se commettent par la foi. Comment je peux dire que j'aime ma femme sans les gestes? Ça ne prouve pas rien. Ça prend des gestes pour prouver l'amour. Ça prend des gestes pour prouver la foi. Ça prend des gestes qui démontrent cette foi-là que les gens vont voir. Qu'est-ce que il y a des gens qui vont dire j'aime ma femme, mais ils vivent pas en conséquence, qui démontrent et qui prouvent qu'ils aiment leur femme. C'est les gestes qui vont parler. Il y a un dicton qui dit tes gestes crient plus fort que tes paroles. Vous avez beau dire des choses, mais s'il n'y a pas les actions qui vont suivre, on dit aussi, les babines ne suivent pas les bottines. Pas un beau langage, là. Les babines ne suivent pas les bottines. Ça veut dire que les paroles qui sont dites ne suivent pas les actions qui devraient être. Et c'est là la foi. Les actions vont démontrer comment est-ce que vous croyez. Le dimanche matin, où êtes-vous? Moi, je ne sais pas, je vous vois à matin. Je vous vois ceux que je vois ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont partis en voyage, je sais qu'il y a des gens qui sont en vacances, votre pasteur est en vacances, on sait qu'il est ailleurs. Mais entre vous et Dieu, le dimanche matin, êtes-vous à l'église? Est-ce que vous êtes là toutes les fois que c'est possible? C'est là que ça prouve aussi votre foi. Parce que vous voulez être fidèle à Dieu. Vous voulez entendre ce que Dieu a à dire. Vous voulez entendre ce que votre pasteur a à dire. Vous voulez être avec les frères et sœurs pour pouvoir partager des choses que Dieu fait dans vos vies ou que Dieu va faire. Et là, ça prouve votre foi. Et là, je ne suis pas en train de vous mettre un fardeau sur le dos. C'est à vous de vous questionner avec Dieu. Quand je ne viens pas à l'église, est-ce que c'est parce que ça me tente de dormir le matin? Ou si c'est parce que je veux vraiment faire les efforts. J'ai beau m'endormir, mais je me lève puis j'y vais. Ça, c'est un acte de foi. Parce qu'on peut tout avoir cette tentation-là. Hein? Le mardi, mercredi, lundi, mardi, mercredi, mais aller jusqu'au samedi, c'est pas dur de se lever. On arrive au dimanche. Ah, moi, je dormirai un matin. Ah, ça dort-tu donc bien? Je resterai chez nous. Mais la foi va faire quoi? Je me lève et je vais à l'église. Mon corps, tu vas obéir à la parole de Dieu et tu vas aller à l'église parce que tu vas rencontrer les frères, mais tu vas rencontrer celui qui est suprême, Jésus. Parce que c'est là qu'il va parler. C'est là qu'il va te parler en grande partie. Et il y a des gens qui vont dire, Dieu m'a parlé. Ils vont dire ça souvent, que Dieu m'a parlé. Mais c'est pas toujours Dieu qui a parlé. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, oui. Mais c'est pas toujours Dieu qui a parlé. Parce que si Dieu a parlé, on va agir dans cette direction-là. Puis quand que les gens disent Dieu m'a parlé, puis que nous, on va les contredire, ça se peut pas que Dieu t'ait dit ça pour telle, telle raison. Parce que tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un dit ça, que Dieu m'a parlé, tu peux plus quasiment le contester. Dieu est suprême. Dieu me dit ça. Mais Dieu va nous dire à travers la parole. Il va nous dire à travers notre pasteur. Il va nous dire à travers les anciens. Il va nous dire à travers les frères et sœurs. Il va nous dire des choses bien des fois. Puis, non, moi je te crée pas. Mais ça vient de la parole de Dieu. Et c'est là que ça prend de la foi pour accepter certaines choses. Oh, c'est juste un frère. Pourquoi que c'était aussi difficile aux disciples d'accepter, ou les pharisiens d'accepter Jésus comme le Messie? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre ce qu'il leur disait. Jésus avait beau faire des miracles, il avait beau multiplier les pains, mais les pharisiens étaient tellement endurcis qu'ils n'entendaient pas ce que Jésus disait. Et on peut avoir un cœur comme ça, endurci, à ne pas entendre. Seigneur, donne-nous un cœur pour entendre ce que ton esprit dit. Donne-nous un cœur docile à ta volonté. On va voir un peu quelques personnages. Abel, au verset 4, il dit, « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parla encore quoique mort. » C'est quoi qu'il a fait? Il offrit, il a offert un sacrifice. C'est un geste qu'Abel a fait. Il a offert un sacrifice, ça prouvait sa foi par le geste qu'il a accompli. Et ça, c'est les héros de la foi. Et vous êtes des héros, vous aussi, parce que vous vivez dans la foi, sauf que votre nom n'est pas encore écrit là. La liste s'est rallongée depuis. Et on voit quelques personnages. On voit Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi que Enoch fut enlevé? C'est parce qu'il marchait avec Dieu. 365 ans, il a marché avec Dieu. Il y avait le geste, il y avait l'action qui marchait avec Dieu. Et nous, si on marche avec Dieu, on va peut-être vivre l'enlèvement, mais on va peut-être mourir dans la foi, mais on va avoir marché avec Dieu toute notre vie. Parce que c'est une action de marcher avec Dieu. Par la foi, tous les jours, tous les matins que vous vous levez, j'ai décidé de marcher avec Dieu. Il va y avoir de l'opposition, il va y avoir des choix, il va y avoir des décisions, il va y avoir des choses que vous allez rencontrer. Il y a des gens qui vont essayer de vous influencer pour que vous mettiez la parole de Dieu de côté pour faire des choses croches. Mais par la foi, vous allez dire, non, moi je vais être droit et je vais agir correctement. Hop, les gens se tassent. Je n'y parlerai plus de certaines choses. Je n'embarquerai plus à essayer de l'embarquer dans certaines manigances parce que je connais que lui a la foi et il n'embarquera pas. Les autres, là, les gens commencent à connaître qui peuvent embarquer avec eux autres et qui n'embarqueront pas avec eux autres. Ça, c'est la foi, de dire non, je n'approuverai pas ou je n'embarquerai pas. On t'a Enoch, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti une arche. C'était quoi sa foi? C'est que Dieu lui a parlé, il a bâti une arche. Et nous, l'arche dans laquelle nous sommes, c'est l'arche de Jésus. On est dans cette arche-là avec lui. On est sur le monde, dans le monde. Mais on flotte au-dessus du péché. Parce que on vit pas dans le péché. Comme il y a le passage que Jésus dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Il parle pas des personnes de pas les aimer. Il parle du péché. De pas aimer, de pas approuver, de pas embarquer avec ces gens-là pour ça. Abraham, c'est quoi qui a fait, qui a été agréable à Dieu? Dieu lui a parlé. Il a quitté sa patrie. Il a quitté le pays d'Ur. Il a commencé à marcher vers la terre promise que Dieu lui avait donnée. Mais il n'a même pas été propriétaire de la terre promise. La seule chose qui a été propriétaire, c'est où ce qu'a enterré sa femme. Mais la promesse est encore là. Mais Dieu lui a dit, ça va prendre 430 ans avant que cette terre-là appartienne au peuple d'Israël. Puis là, il n'était pas gros, là. Mais 430 ans, il y avait du monde quand que Moïse a sorti le peuple d'Israël. Mais Dieu n'est pas limité à notre simple vie. Il y a des promesses qui se sont répercutées dans le temps parce que Dieu est souverain, il est tout puissant, il est suprême sur les promesses qu'il fait. C'est pas merveilleux? Avoir un Dieu qui est suprême au-dessus des choses, qui est en contrôle au-dessus des choses. Tu sais, Abraham, il pouvait pas se rendre à 430 ans. Mais la promesse qui lui a été faite, Dieu l'a accomplie. On le voit avec la continuité de l'histoire. C'est parce que Dieu a une puissance. Et le même Dieu qu'Abraham a servi, qu'Enoch a servi, que Noé a servi, on a le même Dieu encore aujourd'hui au présent. Parce que faut regarder les choses au présent. Pour nous aujourd'hui, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et votre foi est importante. pour Dieu, parce que Dieu veut vous fortifier. On pourrait continuer de même la liste. Mais sachez une chose, que vous êtes dans cette liste-là des héros de la foi. C'est un peu comme le temple de la renommée du hockey. Hein? Les gens qui ont accompli des exploits au hockey ou dans des sports, ils rentrent dans le temple de la renommée. Et là, c'est le temple de la renommée des héros de la foi. Mais il y en a qui n'ont pas reçu ces choses-là, mais ils les ont vus et aperçus de loin par la foi. Ils le croyaient et ils savaient que ces choses-là s'accompliraient. Et ça prend de la foi pour accepter de ne pas recevoir au présent. Ça prend plus de foi encore. Mais Dieu vous couronne avec encore plus de gloire, ces gens-là. Parce qu'ils vont avoir persévéré à travers tout ça. Et on va aller au Hébreux 12, parce que je vais m'en aller vers la finale. Il dit, au verset 12:1, il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ayant quoi? Ayant les regards sur Jésus. Ça, c'est une action de garder les yeux sur Jésus, le chef suprême de l'Église, le chef ou celui qui est suprême à toute autorité, qui est avec le Père. Il dit, « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Jésus a souffert ces choses-là et nous devons garder nos yeux fixés sur lui jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait la différence. Nos yeux sont fixés sur les choses d'en haut, avec Dieu, avec Jésus. Il se passe bien des choses sur cette terre qui sont pas très, très bonnes. On voit toutes sortes de cataclysmes, on voit toutes sortes de tremblements de terre, des champs qui sont, comme cette semaine, un pont qui se sont écroulés. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais s'il y a des gens qui étaient là, qui sont morts dans la foi, sont dans la présence de Dieu. Ça s'est pas arrêté là. Oui, leur corps, mais leur espérance et leur foi étaient en Dieu. Et se sont retrouvés dans la présence de Dieu. Et ils vont ressusciter en même temps que tout le monde, puis en même temps que tous ceux qui vont être enlevés. Ça, c'est encore à venir. Amen. Dieu a des choses encore. Ça, c'est des promesses de la parole de Dieu. Une promesse, c'est quelque chose qui est dite, puis que Dieu va accomplir autant que lui en a décidé. Un peu comme avec Abraham, avec Noé. Dieu a des temps marqués et il fait des choses au temps marqué. Et c'est la bénédiction. Et je vais aller dans la conclusion. On va aller dans Corinthiens. 1 Corinthiens 13:13. Vous n'auriez peut-être pas eu besoin de tourner là, mais 1 Corinthiens 13:13. Un passage qui nous donne de réfléchir. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour en qui? L'amour en Jésus. L'amour en Jésus. C'est la plus grande des trois choses. L'amour dans sa parole. Parce que comment connaître Jésus? C'est par la parole que nous disons. C'est par la connaissance que nous avons des Écritures. Par les découvertes que l'on fait jour après jour de ce que Dieu veut pour notre vie. Et de vivre au présent, c'est la chose la plus importante. Parce que vous pouvez pas vivre l'avenir, vous pouvez plus vivre dans le passé, mais vous pouvez vivre aujourd'hui pour Dieu. Aujourd'hui pour Jésus. Et c'est là les décisions, les actions que vous allez prendre, les gestes que vous allez accomplir, c'est ce qui va faire la différence de vivre aujourd'hui pour Jésus. Parce que c'est le moment présent. Et c'est pas pour rien que Dieu a dit, je suis celui qui suis, un éternel présent. Nous, faut vivre dans le présent. On sait qu'il va y avoir un futur. On sait qu'il faut falloir rentrer notre boîte de poêle. Il faut falloir faire nos affaires parce que l'hiver va s'en venir, qu'on va avoir de la neige. Mais on vit au présent quand même avec Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Et c'est là, cet amour-là qui est nécessaire. On va se lever maintenant. On va terminer avec un mot de prière.